Bonjour, j'habite le 20e arrondissement et je suis très fière des jeunes de Dolto qui ont eu la palme hier. Ce que je voulais dire, c'est que les problèmes de l'enseignement ne sont de toute façon pas encore réglés, mais restons contents. Et je voulais dire aussi bonjour à au lieu dit où je vais au Café Repère. Salut à tous, au revoir.
Mais Paris, mais Paris, cher Daniel Mermet et vous tous auditeurs bien-aimés. Avant, il n'y a pas de mai. Puis ensuite, il y eut le joli mois de mai. De mai de 1968. Mai où l'on se serrait, on s'aimait, on se met. Mai où même les mémés aimaient la castagne. Mais, hélas, les cognent et gagnent. C'était Claude, de l'au-delà.
Oui, bonjour, je m'appelle Marie-Christine Riaz. Je voudrais dire aux pêcheurs qu'ils ne croient pas le gouvernement, parce que je suis infirmière libérale. L'année passée, nous avions signé avec un avenant avec le gouvernement qui devait nous augmenter de 300 millions d'euros sur 2 ans, c'est-à-dire que notre déplacement qui était à 2 euros passait à 2,20 euros. Nos actes qui étaient à 2,90 euros passaient à 3 euros, donc c'est une augmentation énorme. Nous devons avoir une autre augmentation au mois de juillet 2008, et le gouvernement donc, nous refuse cette augmentation alors qu'elle avait été signée l'année passée d'une façon conventionnelle avec eux. Ils veulent nous imposer d'autres règles, renégocier, rediscuter. Donc, par expérience, je peux dire aux marins pêcheurs qu'ils ne croient pas le gouvernement. Voilà, au revoir.
Ici Vais. Les parents parlent aux parents. Je répète, les parents parlent aux parents. Les patrons coûtent cher. Supprimons un patron sur deux. Nous économiserons 17 800 euros par mois. Les ministres coûtent cher. Supprimons un ministre sur deux. Nous économiserons 13 300 euros par mois. L'école coûte cher. Supprimons un poste sur deux. Nous économiserons 1 500 euros par mois. Ouais, c'est ça. L'éducation coûte cher. Essayons l'ignorance. La vaillante petite école de Vais.
Bonjour. À la mi-mai, 14 hauts gradés des escadrons de la mort colombiens ont été extradés vers les USA. Ces types qui ont fait la pluie et le beau temps sous le nom de paramilitaires ou AUC depuis 15 ans et puis jusqu'à peu sont responsables selon les sources soit de l'ONU, soit de l'OEA, l'Organisation des États américains, d'Amérique. Donc ils sont responsables de 73 à 87% des massacres perpétués depuis 15 ans en Colombie selon les années évidemment. Semer la terreur des vastes territoires de la Colombie convoités par des multinationales connues, massacrer des paysans, des indiens de différentes ethnies, des syndicalistes, des simples ouvriers, une sauvagerie inouïe. On parle de plus de 30 000 morts et disparus confondus. Les chiffres officiels de l'UNU, c'est vraiment important, et ils étalent 2 millions de réfugiés intérieurs. Alors ici, en France, on parle que des FARC, hein. Ici, on ne parle pas des paramilitaires. Ici, on ne parle pas du moulage parfait du président Uribe avec les paramilitaires, les escadrons de la mort. Ici, on ne dit pas que dès 89, Uribe, gouverneur de la province d'Antioquia, avait mis en place les premières milices de droite appelées Convivir. On ne répète pas que les plans stratégiques du Pentagone étaient inclus dès 1992 en fonction des paramilitaires. En 2008, ça puait tellement au nez d'Uribe, 2008 c'est pas loin, c'est maintenant, hein. Ça lui pleuait tellement au nez que tous les chefs fascistes ont été extradés vers les États-Unis en emportant tout, sous prétexte de narcotrafic, hein, ils ont été extradés, et en emportant tous leurs secrets évidemment. Et ce qui est le plus troublant, c'est qu'en ce jour du 21 mai, je constate que dans les médias colombiens, on expose qu'un fusible nommé Mayor Général Eduardo Morales nous annonce que non seulement les 14 plus puissants paramilitaires ont été éloignés de la Colombie, Mais, que tous leurs ordinateurs portables et tous leurs téléphones cellulaires ont, ce jour-là, mais disparu. Mais c'était, ce jour-là, ils ont disparu, tout a disparu. Hein, et puis, ils nous expliquent bien qu'il y aurait une enquête, voilà. Et c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a quelques jours, Daniel, hein. Il y a quelques jours, mesdames et messieurs. Voilà, je suis un chômeur poids lourd et ce qui se passe de l'autre côté du monde m'intéresse aussi. Au revoir et bon courage à tous.
Merci, cher AMG, cher auditeur modeste et génial, pour cette, ces remarques et ces analyses sur ce qui se passe en Colombie. Ce qui se passe en Colombie, évidemment, aujourd'hui, c'est l'annonce de la mort de Manuel Marulanda, 80 ans, 78, on ne sait pas exactement, chef des FARC pendant plus de 40 ans, le plus ancien guérillero du monde, dit-on. Ça, on prend peut-être quelques risques. Et le plus vieux guérillero du monde, il faudrait peut-être aller voir en Inde ou au Népal s'il n'y a pas des guérilleros aussi âgés. Mais enfin bon, c'est évidemment un événement important pour la Colombie. Après l'assassinat du numéro 2 des FARC, Raoul Reyes, puis la désertion de Karina, l'Amazone noire, puis l'assassinat d'Ivan Rios, tué par son garde du corps, qui a ainsi touché la prime d'1,7 million d'euros de récompense offerte par le gouvernement, et ainsi de suite. Donc, à en lire notre presse, les FARC seraient en déclin, et donc, et oui, on espère que cela pourrait faciliter la libération d'Ingrid Betancourt, car pour ce qui concerne la Colombie, évidemment, tous nos regards sont vers cette icône médiatique et Ingrid Betancourt. Au mois de décembre, vous avez proposé toute une suite de reportages avec Antoine Chao et Guy Vantil sur la Colombie. Et on voit que là, à l'occasion de la mort de Marulanda, et chef des FARC, à nouveau, on ne parle que des FARC, et on ne parle, c'est tout à fait normal, et on ne parle que de Marulanda, ce qui est tout à fait évident, mais on oublie encore une fois de parler de l'autre côté de la réalité tragique de la Colombie, c'est-à-dire les paramilitaires et les liens entre le chef de l'État, Alvaro Uribe, et ses paramilitaires. Cet auditeur vient de les évoquer. Il vient d'évoquer l'extradition vers les États-Unis de 14 anciens chefs paramilitaires qui étaient emprisonnés et qui avaient des choses à dire sur ce qui s'est passé en Colombie dans ces dernières périodes. Or, ils pourront plus le dire, ils pourront le dire aux États-Unis. Donc, c'est une chance pour le gouvernement, l'actuel gouvernement colombien. Et puis, il y a eu l'arrestation de Mario Uribe, non pas Alvaro, mais Mario Uribe, le cousin et associé politique du président colombien, accusé d'association de malfaiteurs pour ses liens avec les paramilitaires d'extrême droite. Le cousin germain du président Alvaro Uribe a rejoint la prison de la Picota, où un pavillon spécial a été aménagé pour loger la trentaine d'ex-parlementaires écroués depuis 2007. Et il y a une blague en Colombie qui dit que bientôt les réunions le Parlement devra siéger à la Picota, c'est-à-dire à la prison. C'est dire l'emprise des paramilitaires sur la politique, si bien qu'on appelle cela la parapolitique. C'est important parce que on ne peut pas apprécier cette réalité, ni l'existence des FARC, ni la pérennité des FARC aussi longtemps, si on oublie l'autre partie de la vie en Colombie, c'est-à-dire celle des paramilitaires, celle de la politique et le degré d'implication de l'actuel président dans ces milieux et avec ces mouvements. Or, il y a eu un épisode très important dans la vie de la Colombie, c'est l'histoire de la Oupé. En 1985, la guérilla, celle d'aujourd'hui, la même, a suspendu la lutte armée et à négocier sa participation à la scène politique. Et c'est ainsi qu'est née l'Union Patriotique, c'est-à-dire la UP, qui avait à l'époque, en 85, rencontré un grand succès électoral. Pourquoi ça n'a pas marché ? Eh bien, on va revenir sur ce que nous avait dit à l'époque Javier Giraldo et Ivan Cepeda Castro, comment 3000 des élus et des membres de la UP, de cette Union Patriotique, furent tout simplement assassinés par les paramilitaires. Ça nous semble important aujourd'hui, alors que tous les yeux sont tournés vers la figure de Maru Lambda, qui vient de mourir, ça nous semble intéressant d'éclairer cette autre partie de la vie de ce pays, évidemment qui nous concerne, puisque, encore une fois, Ingrid Betancourt y est toujours en otage. C'est notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, tout là-bas si j'y suis et les AMG. Je vous appelle du repère d'Aix-en-Provence afin de vous donner le tout prochain rendez-vous. Ce sera ce mardi 27 mai à 19h30 à la brasserie Le Mansart, place Martin Luther King, dans le quartier d'Ancagnane. Nous aurons la visite de Samuel Michalon, un chercheur qui vient d'Arles. Et le thème de ce repère sera le travail en débat, la remise en cause de l'hégémonie de l'emploi et ses sous-titrés. Travail versus emploi. Et hop là. Alors, à mardi 27 mai, 19h30 précise, s'il vous plaît, au Mansart, au repère d'Aix-en-Provence. Merci et bonne journée à tous.
Allô, bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe. Voilà, c'est samedi matin, là, je suis devant mon école où je vais bosser. En fait, j'avais envie d'appeler parce que, avant de partir au boulot, en me levant, là, j'ai écouté l'émission d'hier, de vendredi, et ça m'a vachement ému là, tous ces témoignages. Moi je suis beaucoup trop jeune pour avoir connu 68, mais j'ai une âme un peu militante, hein, je crois, et ça m'a, ouais, vous m'avez amené les larmes là. C'était vachement ému par tous ces témoignages de lutte, de gens qui se sont sentis à un moment donné appartenir à quelque chose, quoi, sentir, et je rêve de ça, quoi. Je sens que c'est, voilà, que ça me plairait vraiment de participer à une chose pareille, un mouvement comme ça, ou populaire, où les gens sortiraient de chez eux, comme disait cette dame là, ensemble dans la rue, voilà. Voilà, je suis pas, donc là j'ai été très ému. Puis
bonjour, j'ai regardé l'émission hier soir sur le MEDEF, et le représentant du MEDEF des Bouches-du-Rhône disait que les 450 adhérents des Bouches-du-Rhône cotisaient pour 1 800 000 euros, ce qui fait quand même 40 000 euros par adhérent. Qu'est-ce qu'ils font de tout ça ? Il y a 65 permanents dans les Bouches-du-Rhône, ce qui fait un permanent pour 7 adhérents, dans une pipe ils sont soyés. Et si on calcule 2000 euros par permanent, où passe tout cet argent du MEDEF ? Qu'est-ce qu'ils en font ? Ils attendent les prochaines élections pour bouffer la gauche une fois de plus ? C'est vraiment inquiétant. Tout ce fric, à quoi sert-il ? Voilà, je m'appelle Françoise, j'habite en Lozère.
Bonjour, samedi 24 mai. Eh bien moi, tout à l'heure, cet après-midi, je suis allée rendre hommage à la Commune de Paris, qui a été, dans notre histoire, un moment merveilleux, formidable. Je ne l'ai pas vécu, bien sûr, mais qui a laissé beaucoup de traces, comme 68 et comme d'autres dates. Et j'avais envie de vous chanter une petite chanson de cette époque, qui, à mon avis, a toute son actualité aujourd'hui. C'est la hache de Damoclès qui plane sur leur tête. À l'enterrement de Valès, ils en étaient tout bêtes. Fait est qu'on était un fier tas à lui servir d'escorte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune, du chien dans le ventre, et qu'il est temps de crier vive la commune. et ça prouve à tous les Judas, si ça marche de la sorte, ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ben, j'espère que ça va être vrai dans pas longtemps, parce que moi, personnellement, j'en ai marre. Voilà, salut.
En 20 ans, la violence politique a fait 72 000 morts en Colombie, non compté les centaines de victimes tombées sous les balles des bandits ou des trafiquants de drogue.
Se matan los guerrilleros que son gente pobre y los policías y soldados que van a combattre son gente humilde.
Ceux qui se tuent, ceux qui meurent, c'est les guerriers, c'est en général des gens du peuple, et les militaires et la police qui sont aussi les gens du peuple. Voilà,
porque
c'est entre eux qui se
tuent.
C'est facile de tuer ici. Ici, on tue tranquillement.
Si, están pagando los muertos. Là, ils payent les morts, là.
Combien ils payent un mort?
16, 18 millions.
16 ou 18 millions.
La stratégie paramilitaire en Colombie est née pas pour attaquer une armée populaire, une guérilla.
En Colombie, les scènes de violence se succèdent depuis l'assassinat d'un militant communiste.
Mais pour attaquer une manière de penser, c'est-à-dire les sympathisants du communisme.
En Colombie, on tue plus de personnes que ce qu'on a tué en Chili pendant les 17 années de la dictature de Pinochet, par exemple.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, avec Antoine Chao et Guy Van Til. Colombie, la mort facile, l'épreuve de vie.
Là-bas, c'est du Suisse. Escuchen, là-bas, c'est du Suisse.
Flight number 2, arriving from...
Las 4 de la mañana, 11 minutos en Colombia. Estamos en directo a través de Caracol Internacional.
En el 1998... qui mataron primeramente un hijo mío.
La première chose, c'est en 98, ils ont tué un de mes fils.
Llegaron los paracos con el nombre de La Pelona.
Donc c'était une brigade de paramilitaires, on dit Los Paracos, mais ils s'appelaient La Pelona.
Llegaron con el nombre de La Pelona, que llegaban a pelar gente, pues.
Parce qu'ils venaient ici pour plumer les gens,
claro.
Quoi.
Y en ese tiempo mataron mucha gente.
Y a ese momento ahí tué beaucoup de gens.
El que salía a la hormiga con botas lo mataban, salía con camisa... Así ancha, también lo mataban.
Celui qui sortait avec des bottes, celui qui sortait avec une grande chemise, il était tué,
sí.
Tout de suite.
Pourquoi?
Porque decían que era la guerrilla.
Parce qu'il disait que c'était quelqu'un de la guérilla.
Y ahí fue que mataron a mi hijo, pues. Y después en el 2000.
Ils ont tué mon fils et en 2000.
Apenas si salían los hijos, ya no los van a ver más, porque la mayoría ya iban haciendo bajar.
Là, on ne pouvait plus sortir. Et si on voyait nos fils sortir, là, on était inquiets parce que les paramilitaires faisaient des descentes.
Et entonces, ils pedían cédula, que medio no tenía, y enseguida lo cogían, le echaban al monte y lo mataban.
Ils demandaient les papiers, si quelqu'un n'avait pas de papiers, ils l'emmenaient dans la montagne, ils le tuaient.
Porque ellos, los paramilitares, son ayudados por el gobierno.
Parce que, de toute manière, les paramilitaires, ils sont aidés par le gouvernement.
El 27 de diciembre del 2000...
Le 27 décembre 2000.
Ahí llegaron, nosotros estábamos ahí, toda la familia estaba trabajando.
Là, ils sont arrivés, nous on était toute la famille en train de travailler.
Cuando mataron a cuñado.
Ils ont tué mon beau-frère.
Al marido mío.
Mon mari.
Al niño de 12 años mío.
À mon fils de 12 ans.
Y a mi niña,
et quand ils ont tué mon mari, il y avait ma fille qui était là, vous voyez, elle a une trace de...
Et là, il y a une petite... quel âge tu as?
11.
11 ans, elle est mignonne comme tout, et là, sa maman montre son épaule. Elle avait 4 ans à ce moment-là, elle a une épouvantable cicatrice sur l'épaule, cette petite. Et là, ça fait, ils ont tué combien de personnes? C'est un massacre.
Ils en ont 5.
Ce jour-là, ils ont tué 5 personnes.
Épouvantable cicatrice, la mort a une histoire... La mort a une histoire en Colombie. Et il y a une histoire qui est sans doute une des pages qui éclaire le mieux ce qui se passe actuellement. En mai 1985, dans le cadre de négociations tentant d'apporter une solution au conflit armé qui s'éternise en Colombie, naissait la UP, l'Union Patriotique. Et c'est les membres de ce mouvement politique, de ce parti politique, ont été les uns après les autres exterminés. Ça peut paraître quelque chose d'extraordinaire que des militants politiques, des gens engagés dans un parti, des élus, vous allez le découvrir, soient les uns après les autres éliminés, abattus. Combien ? 3000. De 3000 à 5000 selon les sources. Et qui étaient ces membres de la UP ? Eh bien, pour beaucoup, des guérilleros, on va dire repentis, entre guillemets, en tous les cas, des guérilleros qui, dans leur parcours politique, étaient passés de la lutte armée au combat politique, on va dire, normal et démocratique. Eh bien, ils ont été abattus. Par qui ? Eh bien, par les paramilitaires, bien évidemment. Mais qui commandait les paramilitaires ? C'est une question à laquelle on va essayer d'avoir des éléments de réponse. Mais en tous les cas, ce qu'on va entendre aujourd'hui, ce qu'on va nous expliquer aujourd'hui, n'est pas sans écho et sans référence avec la situation dans laquelle on se trouve. Derrière l'image d'Ingrid Betancourt, il y a la Colombie, et la Colombie a une histoire. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis.
Lisandro Mesa, el sabanero mayor, parapolítico no.
Para doctor,
pour devenir docteur,
para enfermero,
pour devenir infirmier,
para todo lo que quieras estudiar,
tout ce que tu voudras étudier,
ahora salud,
il y aura santé, volonté et argent.
Lo importante que te quieras superar,
rappelle-toi que pour tout ce qui te fera t'améliorer,
para bombero,
pour devenir peintre,
para
pour devenir pompier, pour que tu deviennes l'orgueil de la famille,
para eso yo
tout ça, je vendrai des petits mots.
Para
parce qu'il faut toujours étudier
que
quelque chose dans la vie.
Para politico, no. Para politico,
pour devenir
no.
Un homme politique corrompu,
para
non.
Politico, no. Para
un homme politique lié aux criminels paramilitaires, non. Devenir comme les 40 proches du président Uribe déjà en prison, non.
Pour
tout ce que tu voudras étudier, sauf pour ça, je te payerai les études. Devenir médecin, pour être architecte,
pour
que tu sois utile à la société,
pour
que tu assures ton futur, pour celui qui doit t'éduquer, pour devenir taxiste, pour devenir footballeur, pour que tu joues comme le grand Pibe Valderrama. Pour tout ce que tu vas apprendre dans la vie te serve, il faut que tu n'oublies pas ça. Pas de parapolitique, pas de magouille entre les politiques et les paramilitaires. Pour tout ce que tu voudras apprendre, sauf pour ça, je te payerai les études.
Je suis le fils d'un sénateur de la République de la Colombie qui s'appelle Manuel Cepeda Vargas. Il a été tué en 1994 et j'ai fondé une organisation de droits de l'homme qui s'appelle la Fundación Manuel Cepeda Vargas. Je suis aussi le représentant d'une coalition des organisations qui luttent pour la justice, que c'est le Mouvement National des Victimes de Crimes d'État. Et j'appartiens aussi à le mouvement Fils et Filles pour la mémoire et contre l'impunité.
Voilà, Yvan Cepeda est avec nous et devant nous. Et chance, il est francophone. Et voilà, il vient d'expliquer en quelques mots ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Pourquoi il le fait ? Eh bien parce que son père, Manuel Cepeda Vargas, a été assassiné dans le cadre de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire ce parti qui était la UP. Alors, il y a une chose sur cet homme qui est en face de nous, il est en danger de mort, ce militant. Il n'est pas le seul d'ailleurs hein, dans ce pays, mais ceux qui luttent pour les droits de l'homme, pour une certaine justice, pour changer un peu les choses, desserrer un peu l'étau de peur et de terreur qui règne sur ce pays, eh bien, ils sont régulièrement menacés et les défenseurs des droits humains s'inquiètent pour des menaces qui ont été faites envers Ivan Cepeda Castro le 17 août 2007. Tout récemment, une guérilla qui s'appelle Aguilas Negras a adressé carrément un message lui indiquant de se taire, faute de quoi ses jours seraient en péril. Évidemment, ce n'est pas le genre d'homme que ce genre de menace arrête, mais ça donne quand même une idée du climat qui règne dans cette bonne ville de Bogota.
Tu parles de lutte, d'organisation, mais il y a toujours la menace. Et toi-même, tu es menacé.
Oui, je pense que c'est une condition très naturelle et commune, malheureusement, dans mon pays. J'ai dû entreprendre l'exil avec mon épouse. On a été à Lyon pendant 3 ans et demi. Et le français que je parle, avec beaucoup d'erreurs et problèmes, je l'ai appris à Lyon et j'ai beaucoup de souvenirs de cette époque-là.
Oui, enfin, tu as des souvenirs de cette époque-là. Nous, on a sous les yeux une communication qui est toute récente, qui date de septembre 2007, qui vient de Frontline, qui défend les défenseurs des droits de l'homme, qu'en somme. Il y a un groupe paramilitaire qui s'appelle Aguilas Negras, c'est-à-dire les Aigles Noirs, qui te menace, toi, ainsi que Hernando Menezes Velaides, qui est le secrétaire de l'Union syndicale des ouvriers.
Oui, c'est une des menaces. On a eu beaucoup de situations dans lesquelles cet avertissement de nous faire taire ou de nous faire prendre l'exil une nouvelle fois. Mais on a maintenant l'accompagnement de Brigade internationale de paix, que c'est une organisation de volontaires européens, même de volontaires français, qui sur place nous font un accompagnement solidaire. Et ça nous protège devant ce type de menaces.
Tu veux donc dire que si on veut soutenir Ingrid Betancourt, si on veut militer pour qu'elle soit libérée, il faut vous soutenir aussi.
Je pense qu'il faut, ah oui, il faut soutenir les efforts que fait la société colombienne. Et dans un monde globalisé, je pense que la situation colombienne est de plus en plus significative pour les citoyens européens. Bien, mon père appartenait à un mouvement politique qui s'appelle l'Union Patriotique, que c'est une coalition qui a été créée après un accord signé en 1984 entre le gouvernement colombien et les guerrilleros de FARC. L'idée de ce mouvement était de faire une transition de la guérilla à la vie politique. Mais cet accord a été rompu et ils ont commencé les crimes contre ce mouvement, la Union Patriotique.
C'est-à-dire que c'était en 1984, le président était un conservateur qui s'appelait Betancourt, qui n'avait rien à voir avec Ingrid Betancourt, et qui, lui, a entrepris des négociations entre la guérilla et le gouvernement. Une partie au moins des FARC ont accepté de rentrer dans le jeu politique normal, disons.
Oui, le processus de paix était en train de se développer avec la création d'un mouvement politique dans lequel il y avait représentants des guerrilleros, mais aussi représentants des partis politiques qui ont été légaux. Donc l'accord consistait en que le gouvernement s'est engagé à garantir l'action politique des personnes de l'Union patriotique. Et les guérilleros avaient pris le compromis de faire un cessez-le-feu et d'arrêter les séquestrations et d'autres formes de violence.
En Colombie, la guérilla pactise avec le gouvernement. Les dirigeants du mouvement M19 ont signé hier un accord de cessez-le-feu avec les autorités de Bogota.
Avec la signature d'un cessez-le-feu entre gouvernement et guérilleros du mouvement M19, on peut dire que 27 000 des 30 000 guérilleros colombiens ont désormais choisi d'arrêter les hostilités, au moins pour un temps déterminé. Les pro-communistes avaient été les premiers à répondre en mai dernier à l'appel du président Betancourt, essayons de troquer des réformes sociales contre la paix civile.
25 août 1984, France 3.
Mais très vite, cet accord a été interrompu pour l'État, parce qu'ils ont commencé...
Pour toi, c'est l'État qui a rompu l'accord.
Oui, je pense qu'il y a une trahison de l'accord, parce que les militants de l'UP, de l'Union patriotique, ont commencé à être tués d'une façon systématique. Dans les premières élections après cet accord, l'Union patriotique a réussi à avoir un résultat électoral que pour la première fois pour la gauche en Colombie était un succès très significatif.
C'est-à-dire, ça faisait quoi?
C'est-à-dire l'élection de 14 parlementaires et d'un très grand nombre de députés locaux et d'autres types de représentation dans les organes du pouvoir local et national en Colombie. Et donc, dans les premiers crimes, il y avait d'un côté cette idée que les représentants du parti de gauche étaient une espèce de civil qui représentait la guérilla, mais aussi l'idée d'exterminer une alternative politique au parti traditionnel et leur pouvoir dans les scènes colombiennes.
Des pages peu connues, en tous les cas de nous, de cette histoire de la Colombie. On parle de génocide. Il faut faire attention évidemment à une définition comme celle-là. Mais en tous les cas, on peut parler d'un, comment dire, d'un policide, d'un politicide. Ça, c'est très clair. Voilà ce qu'en pense notre ami Javier Giraldo, de la communauté de paix de San José de Apartado. Vous vous souvenez, cette longue marche qu'on a faite avec lui et avec surtout les habitants de cette communauté prise entre deux feux, le feu de la guérilla et le feu paramilitaire, et qui résiste à tout depuis de nombreuses années, depuis une dizaine d'années, ce qui leur a valu des pressions et des violences au point que 185 ou 187 d'entre eux, des villageois de cette communauté, ont été assassinés. Et la marche à laquelle nous avons assisté était un hommage aux quatre derniers disparus, enfin paysans assassinés. Voilà son point de vue, voilà le point de vue de Javier Giraldo. Je le rappelle, c'est un prêtre jésuite de la sensibilité, de la théologie de la libération, sur cette affaire de la OUP. Quand on vous lit, vous êtes théologien de la libération, j'ai lu des interviews que vous avez données. Pour vous, la cause profonde de toute cette histoire, c'est évidemment la question sociale.
Oui.
C'est la question des inégalités sociales.
Mmh.
Est-ce que la question sociale est la question de la guérilla, la question numéro un de la guérilla? Ou bien est-ce que la guérilla est prise dans son propre fonctionnement, dans ses propres contradictions? Dans sa propre fatigue.
Il faut prendre en compte qu'il y a une vingtaine d'années à peu près, le président Betancourt, aux années 83-84, a commencé un dialogue avec la guérilla et a proposé à la guérilla de FARC d'abandonner la lutte armée et commencer à fonder une espèce de parti politique pour participer dans les élections et pour participer dans les luttes démocratiques. Bon. La guérilla a accepté et a commencé à fonder un parti politique qui s'appelait l'Union Patriotique et a participé dans les élections de l'année 86. Mais en même temps, l'armée et les paramilitaires ont commencé à tuer à tous les militants de l'Union patriotique.
ils sont exterminés, l'Union patriotique. Presque tous les gens qui ont été élus pour les parlements, pour les assemblées des départements, pour les conseils municipaux, pour les maires des petites villes, etc., ont été tués. Et beaucoup de militants, des chefs des partis, les étudiants, les paysans, les syndicalistes, etc., ont été tués. Il y a plus de 3000 personnes qui ont été tuées. Et c'est pourquoi la guérilla est retournée à la lutte armée.
En Colombie, les scènes de violence se succèdent depuis l'assassinat d'un militant communiste. Nombreuses grèves, journées de protestation. Hier, un enfant de 12 ans a été tué par balle. Depuis dimanche, c'est 11 personnes qui ont été tuées au cours de ces manifestations.
TF1, 14 octobre 1987.
Gigantesque journée de protestation après l'assassinat du plus important dirigeant communiste, président de l'Union patriotique. Jaime Pardo Leal, 48 ans, a été tué par balle à la Mesa, située à 80 km à l'ouest de la capitale Bogota. L'attentat a été perpétré par des inconnus qui circulaient en voiture. Aussitôt, certains mouvements de guérilla, tels que les forces armées révolutionnaires, ont décidé de rompre la trêve avec le gouvernement. Il n'est plus question de paix ni de dialogue, ont-ils déclaré. Maintenant, c'est la guerre.
Même le président Pastrana, je me souviens d'un discours qu'a fait le président Pastrana en Espagne, après son élection comme président, il a dit, bon, malheureusement, c'est la réalité. La guérilla a accepté, participé à la lutte démocratique, mais malheureusement, on a tué tout le monde. Et aujourd'hui, disait Pastrana, aujourd'hui, il n'est pas possible de leur demander de répéter la même histoire, de les inviter à participer dans un parti politique et participer dans les élections. C'est une histoire échouée, disait Pastrana. Il faut prendre en compte toute cette histoire et pour comprendre les raisons de la guérilla. Je crois que la guérilla, c'est un mouvement qui toujours nous fait mémoire de la violence en Colombie et nous dit que il n'y a pas de possibilité de participer dans une lutte démocratique. Et la répression contre tous les partis, les mouvements qui ne partagent pas la vision des classes dirigeantes, c'est la cause de l'existence de la guérilla, non?
Or, pour les États-Unis, acteur important dans cette affaire. Or, pour l'Europe, acteur aussi dans cette affaire, les FARC sont inscrits sur la liste des groupes terroristes. Or, les FARC, évidemment, demandent à être considérés comme un groupe belligérant, de combattants, mais pas d'être considérés comme des terroristes. Et ça fait partie de la négociation. C'est une des raisons pour lesquelles Ingrid Betancourt est là où elle est. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Comprendre n'est pas défendre, n'est pas en train de faire l'apologie des FARC. On essaye avec Javier Giraldo et avec Ivan Cepeda de comprendre le contexte historique, mais aussi comment cette violence et cette histoire de la Houpée le montrent, est une violence d'État.
Cette criminalité d'État, cette violence de l'État, elle commence quand?
Bien, je pense qu'on peut dater l'existence de ces criminalités dans le début des années 60, parce que c'est le début aussi du conflit armé en Colombie. Il faut rappeler que les deux groupes de guérilla, les FARC et l'ELN, existent à partir de 1964, 65, 66.
Comment et pourquoi naissent ces deux guérillas?
Bien, ces deux guérillas ont eu le début dans des conflits dans le monde rural en Colombie. Il y a des populations qui ont été rejetées par la violence, pour la lutte sur la propriété de la terre, qui ont été chassés par des moyens violents, mais des autres petits groupes ont pris la décision de mener la lutte armée. Et donc, je pense que la lutte de ces groupes a des racines dans la question de la terre en Colombie.
Oui, ce qui nous semble inimaginable, mais enfin c'est quand même le chiffre qui circule, c'est que 1% des habitants de la Colombie sont propriétaires de 80% des terres.
Oui, la Colombie est un des pays dans le monde qu'il y a une concentration de la propriété terrienne très monopolistique. C'est une concentration, une accumulation de richesses qui a été menée d'une façon très violente. C'est l'histoire des dernières 40 ans. En Colombie, il existe presque 4 millions de personnes qui ont été déplacées par la violence. Et ces personnes habitent maintenant dans les grandes villes et sont des populations qui sont réduites à la misère, à la pauvreté, dans des conditions infrahumaines d'existence.
Plus de 43 ans de FARC, 43 ans de lutte. Que veulent les FARC aujourd'hui? Que sont les FARC aujourd'hui? Le point de vue de Javier Giraldo.
On n'a pas encore beaucoup parlé de la guérilla et on n'a pas beaucoup parlé non plus des FARC en particulier. Pour vous, est-ce que aujourd'hui les FARC ont encore une signification politique, sociale, ou bien c'est simplement comme vu du point de vue de Washington, un mouvement terroriste?
Je crois qu'il n'est pas un mouvement terroriste. C'est un mouvement rebelle, oui. Et si on analyse la dynamique, on peut dire, de la guerre, une guerre irrégulière n'a pas d'autre moyen de financement, de soutien, que des actions illégales. Par exemple, l'enlèvement des personnes. Mais je crois que dans la mesure où la violence de l'autre côté est plus forte, il y a une réponse beaucoup plus violente de la guérilla. Je crois que la violence de la guérilla, c'est une réaction à la violence des paramilitaires. Mais le gouvernement a dit toujours que la guérilla n'a pas de motif, des enjeux sociaux, mais seulement des enjeux économiques, des profits. Mais quand il y a des protestations sociales, par exemple, quand il y a des grèves, quand il y a des marches, tout ça, le gouvernement dit toujours « Ah, c'est la guérilla qui est derrière tout ça ». Alors, le gouvernement reconnaît que la guérilla est derrière les protestations et les revendications sociales.
Et c'est la vérité. Pour vous, il est vrai que la guérilla aurait une base sociale toujours, a une base sociale?
Oui, je crois que dans la campagne surtout, la guérilla a une base sociale. Mais c'est vrai aussi que la guérilla a commis beaucoup de crimes qui ne sont pas acceptables à la lumière du droit international humanitaire et qui sont des crimes de guerre, c'est vrai. Et ils ont tué beaucoup de gens qui ne sont pas engagés dans la guerre.
Ils détiennent toute une centaine d'otages.
Beaucoup d'otages. C'est vrai. Mais aussi, c'est vrai que la guérilla a beaucoup d'appui de base.
Si demain, imaginons l'inimaginable, la guérilla arrêtait et se présentait sur une liste électorale, faisait une liste pour les FARC, voilà. Bon, en 2010, je ne sais pas à quelle occasion que les choses. Quel serait selon vous le nombre de Colombiens qui voteraient?
Je crois que très peu, puisque l'action de la guérilla ne se développe pas dans ces milieux démocratiques, disons, au moins du point de vue formel. Mais je crois que les gens qui sont dans la campagne,
qui sont menacés par l'armée, par les paramilitaires. Ils cherchent beaucoup la guérilla pour se défendre.
C'est toujours le cas aujourd'hui?
Oui, oui.
Quel lien vous faites entre les paramilitaires et le gouvernement?
C'est la lien de la main, c'est ça.
Ils sont main dans la main.
Et la police también.
Et la police aussi.
Qu'est-ce que vous avez pour vous défendre?
Dieu du ciel, parce que...
Dieu du ciel.
Mm-hmm. Il n'y a plus que ça.
C'est Dieu qui nous m'a fait.
Ahí les extrañame entonces.
Porque ellos, los paramilitares, son ayudados por el gobierno.
Parce que, de toute manière, les paramilitaires, ils sont aidés par le gouvernement.
Y ellos se adueñaron de las cosas que tenía la gente.
Donc ils se sont appropriés les choses que les gens possédaient ici et ils les faisaient partir en courant.
Uh-huh. Ellos se apoderaron de todas las cosas de la gente.
Ils se sont tout hasta appropriés, de mi casa toutes les choses des gens, même de ma maison aujourd'hui.
Por aquí andan matando gente.
Sí, ils continuent à tuer les gens.
Sigue continuando la muerte.
La mort continue ici.
Los matan y los entierran.
Ils les tuent et les enterrent.
Hace unos 2-3 días mataron a un muchacho.
Ça fait 2-3 jours, ils ont tué un gars.
Abrieron el hueco, lo mataron, lo han enterrado.
Ils l'ont tué, ils ont creusé un trou, ils l'ont enterré.
À quel endroit?
Aquí en La Dorada.
Ici, à La Dorada.
C'est beaucoup ces paroles que vous entendez. Ça passe comme ça, une émission de radio sur France Inter, là-bas, c'est j'y suis, vous êtes dans la voiture, dans la cuisine, dans le train. Mais c'est fou, c'est ce qu'on entend là. Si on s'arrête à une minute et qu'on réécoute ça, c'est fou. Et c'est fou ce que disent les gens. Et c'est fou le courage qu'il leur faut pour dire ces choses-là. Et tout ça, c'est important d'écouter ça. C'est important de se dire qu'il y a ces otages, il y a des libérations, il y a de l'espoir, du désespoir, mais que tout ça, il n'y a pas de fatalité là-dedans. Il y a une histoire, une longue, longue histoire, une lourde histoire, une histoire échouée, nous a-t-on dit, et qui nous devons comprendre, nous avons l'occasion de la comprendre. Ce qu'on s'était dit en partant en Colombie, c'est que l'image d'Ingrid Betancourt ouvrait une passerelle entre la Colombie et nous. Elle est franco-colombienne, après tout. Dans franco-colombien, il y a français. Et il y a des histoires, il y a une histoire de France qui se déroule en Colombie. C'est une histoire, en tous les cas, qui nous concerne et qui nous passionne et que nous avons à comprendre. Voilà pourquoi on est avec Javier Giraldo et Ivan Cepeda Castro qui raconte justement cette histoire. Alors, entre 1966 et 1998, selon le travail de votre association et des associations de droits de l'homme, on aurait 44 000 cas de disparition forcée et d'assassinat.
Oui, c'est un chiffre toujours très incomplet et très partiel, mais on a réussi à documenter ces milliers de crimes perpétrés par les membres de l'armée ou par des groupes paramilitaires avec le soutien de l'armée. C'est-à-dire, sont groupes qui, en apparence, fonctionnent comme des groupes de justice privée, entre guillemets, des milices ou des escadrons de la mort, mais qui, en réalité, sont une prolongation illégale de la force armée, qui fait le travail sale, la guerre sale, contre les paysans dans beaucoup de régions de la Colombie. Et régulièrement, en Colombie, la disparition forcée en masse perpétrée par les paramilitaires a fini avec l'enterrement de milliers de personnes dans des fosses communes, dans des cimetières clandestins, que jusqu'à présent commence à apparaître comme une réalité tragique dans la Colombie.
Qui sont les donneurs d'ordre? À qui profitent ces crimes?
Et régulièrement, sont des élites régionales, des politiciennes, des latifundistes, des
propriétaires terriens,
terratenientes comme on dit en espagnol, et aussi des mafias, des narcotrafiquants pour s'approprier des immenses richesses et de faire des business aussi dans ce type de région. Dans beaucoup de ces territoires se mène le chemin de la drogue en Colombie ou aussi sont utilisés pour les multinationaux qui font l'exploitation de richesses pétrolières, minéraux ou pour la cultivation industrielle de la palme de huile ou de la banane aussi, comme c'est le cas de Chiquita Brands par exemple.
Un dernier point sur le rôle des États-Unis dans tout ça. On sait que
la Colombie, le troisième pays à bénéficier des soutiens américains après Israël, l'Égypte, oui, c'est la Colombie. C'est vrai, oui. Il y a le plan Colombie. Et quand on aide de cette façon un pays, ça ne va pas sans contrepartie. Alors on a évoqué la présence des multinationales ici, mm-hmm. ici même là où nous sommes, à travers la culture de la banane, etc. Mm-hmm. Mais comment les États-Unis influencent une évolution ?
Bon, c'est une domination très ancienne.
Javier Giraldo.
Les années 50 et 60, c'était la politique anticommuniste qui dominait toute la politique nationale, mais poussée par les États-Unis. Mais dans les années 80, c'était la drogue, une espèce d'occasion, de prétexte pour contrôler tous les mouvements sociaux en Colombie. C'est sous le prétexte de la drogue que les États-Unis envoient des troupes, des mercenaires, entreprises militaires privées. C'est comme ça qu'ils contrôlent tous les mouvements du pays.
Merci. Mais est-ce que les États-Unis pourraient accepter un gouvernement de gauche, supposons que le pôle démocratique en 2010 ait des chances? Est-ce que les États-Unis interviendraient, feraient pression? Est-ce que les États-Unis pourraient lâcher Uribe ?
On dit que les États-Unis ont déjà élu les successeurs d'Uribe. Et ils poussent à travers beaucoup de moyens leur politique. L'achat des journalistes et beaucoup d'autres moyens dits démocratiques. C'est la domination.
Un petit rire de Javier Giraldo, qui suit ça et qui vit ça et qui agit dans ce pays, est un homme engagé, on va dire, un homme engagé, tout comme Ivan Cepeda Castro.
Vamos!
Alors, sur l'ensemble de la violence depuis 20 ans, 87-2007, pour donner une séquence de temps, vous dites que 70% de la violence incombe à l'État, c'est-à-dire État paramilitaire et armée, et la guérilla est responsable de 30% de cette violence.
Oui, oui, correct. Les statistiques qu'on mène depuis des années, mais on a aussi une discussion très forte avec le gouvernement. Le gouvernement dit toujours que la violence attribuée aux paramilitaires, c'est une violence différente à la violence de l'État. Pour nous, la responsabilité des crimes perpétrés pour les paramilitaires est attribuable à l'État. Et on a déjà 6 sentences de la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans lesquelles la responsabilité sur les agissements des paramilitaires est une responsabilité étatique. Mais c'est que la communauté internationale a déjà compris sont les exactions et les crimes perpétrés pour les FARC, principalement. Mais on n'a pas encore une conscience claire sur le rôle de l'État. Et il faut le dire très clairement aussi. L'État colombien, post d'un État démocratique, je n'oserais pas dire que c'est un État fasciste, mais qui a développé des traitements criminels contre l'opposition et contre la population civile aussi. Donc il faut être très symétrique et très clair dans une vision complexe de la Colombie.
Merci à tous. Merci à Ivan Cepeda Castro, à Javier Giraldo et à Jorge Enrique Botero. C'était un reportage avec Guy Ventil et Antoine Chao. Merci également à Françoise Escarpi, Laurence Mazur et Maurice Lemoine. À lire en espagnol, c'est pas forcément la portée de tous, mais quand même, Ultimas Noticias de la Guerra de Jorge Enrique Botero, paru en 2007 aux éditions Débat. Comment des milliers de militants ont été liquidés en Colombie, par Ivan Cepeda Castro et Claudia Giron Ortiz, un article paru dans Le Monde Diplomatique de mai 2005 pour compléter votre documentation sur ce sujet. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org. La technique aujourd'hui, Renan Maé et Stéphane Poitvin, c'est Yann Chouquet et Koye Nguyen qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry, qui attend également vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.